Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire du journal du jour, ce qui reste, l'exposition d'art contemporain de l'été 2025 à l'espace Corneille, à Villefranche-sur-Saône, entonne une ode à la vie rurale. Les récits du patrimoine, témoins du temps passé, réinterrogés par chacun des artistes invités. Un bel hommage au monde du vivant et homme enraciné dans le temps. L'histoire de la création de cette exposition avec les artistes et directrices artistiques. La Journée internationale des musées, quelle bonne idée! Elle est célébrée depuis plus de 45 ans, le 18 mai, tout proche de sa voisine, la Benjamine. Nuit européenne des musées, le 17 mai pour cette année. Au thème de la Journée internationale des musées 2025, l'avenir des musées au sein des communautés en constante évolution. Alors que le monde traverse une ère de transformation rapide, les musées sont des institutions vitales qui favorisent la résilience, l'innovation et l'inclusion. Les musées jouent un rôle crucial dans l'avancement des objectifs de développement durable des Nations Unies et met l'accent sur le travail décent et croissance économique, industrie, innovation, infrastructures, villes et communautés durables. Les musées peuvent s'adapter, évoluer et jouer un rôle de premier plan en période de changement. Le 18 mai, les institutions culturelles, les responsables politiques et les communautés du monde entier appelleront à s'unir et mobiliser le pouvoir de transformation des musées, façonner un avenir. Le 17 mai, la Nuit européenne des musées s'inscrit sur le thème « Les musées pour l'éducation et la recherche ». À l'heure où recherche et éducation est bien trop malmenée. Souvenons-nous que l'événement est un encouragement aux citoyens de visiter et découvrir les musées au plus proche de chez eux. Alors, please, ayez cette curiosité. Le rendez-vous d'été de l'espace Corneille entonne une ode à la vie rurale. Ce qui reste, titre de la nouvelle exposition du musée Paul Dini à Villefranche-sur-Saône qui narre les récits d'un patrimoine témoin du temps qui passe pour mieux les réinterroger, nourri par la création de chacun des artistes invités. Savoir d'où l'on vient, c'est comme avoir des racines. Ainsi s'enchaînent les objets de l'artisanat détourné, les us et coutumes aux rites et aux traditions populaires, ainsi que la variété des campagnes françaises, la transformation des paysages entre générations, le savoir-faire, la transmission et l'héritage familial, la force de l'art de la mémoire à la Renaissance jusqu'au 21 septembre prochain. L'histoire de cette nouvelle exposition à l'espace Corneille au musée Dini commence au festival Campagne Première, accompagnée de Fanny Robin, directrice artistique.
Oui, absolument. Donc, c'est un festival que j'ai créé en 2018, campagne première à l'échelle de mon village, à Revona, et qui est mené avec une association, beaucoup de bénévoles qui le font vivre au quotidien. Tous les deux ans, on accueille des expositions d'art contemporain à l'échelle du village, mais aussi c'est un projet qui commence à se déployer depuis plusieurs années en dehors du village, dans d'autres institutions. Et là, donc, grâce à Marion et son invité, on est ravis de rejoindre le musée Paul Dini pour y présenter une sorte de suite en fait du projet qu'on avait présenté à l'été 2024.
Les origines de Campagne Première.
Campagne Première, c'était un clin d'œil à cette rue parisienne qui accueillait de nombreuses résidences d'artistes et j'avais lu qu'une fois par an, tous les artistes justement ouvraient leur atelier au public pour faire découvrir un travail. Donc c'était aussi ce lien avec la campagne, évidemment, et cette idée de faire campagne aussi à la campagne pour y amener des artistes contemporains au milieu de lieux un petit peu plus insolites en dehors des institutions.
Les axes de l'exposition.
Alors la ligne artistique, c'est vraiment aussi ce lien au territoire, cette idée de lien au geste, à un patrimoine qui soit matériel ou immatériel. Voilà, mais pas dans une vision nostalgique des choses. C'est plutôt comment on fait, on part d'un passé. pour réinterpréter ou au moins essayer d'en proposer de nouvelles visions, d'autres regards. Et c'est là où on a vraiment, avec Marion Ménard, directrice du musée, réfléchi à cette nouvelle histoire ensemble avec d'autres artistes qui ont intégré ce projet.
Oui, tout à fait.
Marion Ménard, directrice du musée.
J'ai travaillé dans un des musées qui avait des liens avec l'agriculture, l'environnement, l'alimentation. Donc c'est vrai que des artistes aussi qui sont proches de ces thématiques m'ont toujours beaucoup intéressée. Donc c'est vrai que quand j'ai découvert le festival Campagne Première de Fanny Romain, je me suis tout de suite intéressée aux artistes qui étaient présentés. Donc sur les 10, on en a gardé 4, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, qui avait un vrai lien à la région, parce que c'est vraiment le fil rouge, nous, la carte d'identité du musée Paul Dini, donc on présente des artistes qui ont un lien de vie ou de travail avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a repris les 4 artistes de cette édition de festival Campagne Première qui avaient un lien à la région, et puis on en a ajouté 5 autres qu'on connaissait chacune. On a fait nos propositions qui avaient des sensibilités qui nous semblaient coller avec la thématique qu'on avait envie de développer.
Un enjeu, l'art de la transmission.
Oui, je crois que on se retrouve beaucoup là-dessus avec Marion et le travail de ces artistes qui ont ce lien sensible au territoire, mais aussi à travers cette idée de transmission. Ça, c'est quelque chose qui est un fil rouge tout au long des propositions qui sont pourtant très diverses, parce que vous allez y découvrir des installations, de la peinture, du dessin, la photo, etc.
Oui, tout à fait. Dans les sous-thématiques qu'on souhaitait aborder, il y avait toute cette histoire des transmissions, transformation des savoir-faire, toutes ces évolutions. Donc on a, par exemple, Sylvie Sauvageon qui, notamment, s'intéresse aux colporteurs, ou tous ces petits métiers qui gravitent autour de cette notion de déplacement, etc. Donc plein de choses qu'on ne retrouve pas. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de disparition au fil, les savoir-faire qui se transforment ou qui se perdent, tout à fait. Nicolas Boulard, qui s'intéresse au monde du vin et qui en étudie aussi un petit peu les techniques et qui les détourne à sa manière en les revisitant, notamment avec des clins d'œil qu'il fait à l'histoire de l'art. Sur la transformation des paysages également, qui est notre deuxième sous-thématique, où on voit que le paysage autour de nous ne fait que changer, et notamment les paysages agricoles, au travers du travail de Joël Paubel.
Les artistes nous questionnent sur tous ces liens qui s'invitent dans nos mémoires collectives et persistent. Un retour sensible de notre histoire et modernité, exprimée par chacun des artistes que nous allons retrouver.
Je m'appelle Nicolas Boulard, je suis artiste. Alors effectivement, l'exposition, c'est la continuité d'un vœu du festival Campagne Première qui a eu lieu à Revona l'été 2024. Et ici, on est dans un contexte plus muséal, contrairement au festival qui lui a lieu dans un village. Et là, je présente 5 œuvres. Récente et moins récente. Donc il y a un premier nuancier finement boisé qui est composé de 12 bouteilles dans lesquelles sont infusés des cubes de chêne et du vin blanc chardonnay. L'ensemble des œuvres que je présente ici ont un lien avec le monde de la viticulture et le monde du vin. Et il y a notamment cette pièce importante dans l'exposition qui est un nuancier composé de 12 cercles, et chaque cercle est dessiné et peint avec de la terre qui vient de chacun des 12 crus du Beaujolais. Voilà, que j'ai vraiment utilisé comme du pigment qui a été tamisé, affiné, ensuite mélangé avec un liant et vraiment appliqué au mur directement.
Joël Paubel.
Quand le cadastre devient une œuvre d'art.
Elle vient du fait que je suis fils de paysan et que j'ai toujours vu mes parents utiliser les cadastres pour parler de leurs terres, leurs locations, l'aide européenne, il fallait les cadastres et moi j'aime bien consulter les cadastres pour y marquer moi-même ce qu'il y a à faire à tel ou tel endroit. Et j'ai eu envie de les utiliser plastiquement parce que c'est assez intéressant. Surtout quand on se penche sur l'historique des cadastres. Savoir que maintenant c'est public, mais on peut consulter une même région aujourd'hui et à partir de 1812, puisque le cadastre dit napoléonien est public. Et on voit bien l'évolution du cadastre de 1812 à aujourd'hui.
Une remontée dans le temps.
Ça, c'est une série sur 4 années. C'est-à-dire, en fait, les cadastres, c'est pas une année, ça se fait... Par exemple, là, c'est le cadastre de 1837, qui est terminé en 1837. Ensuite, le deuxième, c'est le cadastre de 1974, mais il a commencé à être modifié dans les années 40, pendant la guerre, et puis après, il a évolué. Il y a eu beaucoup de mouvements paysans, hein, parce que les remembrements n'étaient pas bien perçus. Hein. C'était imposé par l'État, donc il y a eu beaucoup de difficultés. Et finalement, ce cadastre-là de 1914 est visible aujourd'hui sur Internet, cadastre.gouv.fr. Ensuite, ça, c'est le troisième cadastre de 2023. Il y a eu des modifications. Et le dernier cadastre, je me suis amusé à faire un monochrome, c'est-à-dire c'est ce que ça va devenir et c'est quasiment fait aujourd'hui. Parce qu'entre le premier et le dernier cadastre, il y a ici plus d'une centaine de parcelles avec une vingtaine de paysans, d'après enquête faite aux archives. Et le dernier cadastre, il y a 35 hectares, puisque ça représente 35 hectares, ici un tableau, avec un seul et unique champ et un paysan.
Yveline Loiseur. Récit pour les générations témoins du temps qui passe.
J'ai été intéressée par l'endroit d'accrochage puisqu'il comporte des fenêtres et qu'il joue en rythme avec le travail qui en comporte aussi et ça crée une sorte de mélodie plastique, on va dire, entre le travail et le lieu. Ici, ce sont des histoires de vie en particulier la vie de l'enfance et aussi la vie de la vieillesse. Donc c'est deux séries et deux récits qui se mêlent autour de la représentation de différentes générations, des relations, du temps qui passe, de la disparition notamment.
L'art de l'ombre et la lumière pour l'artiste Yveline Loiseur.
Il y a effectivement ce travail aussi emprunté à la peinture, hein, de l'apparition de figures dans la pénombre. Et puis la photographie, c'est aussi, on le sait, un travail d'ombre et de lumière. Donc c'est des outils qui sont éminemment photographiques. Ouais.
Et si ces artistes ont éveillé votre curiosité, poussé les portes de l'espace Corneille, ce qui reste, exposition d'art contemporain jusqu'au 21 septembre au musée Paul Dini à Villefranche-sur-Saône. Fin de cette édition, restez à l'écoute de Caladma Radio. À tout bientôt.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.